This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials, where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Save big money on your next project. Now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now. Save big money at
Menards. Le trou du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa. Le Horla, par Guy de Maupassant. Le trou. Coups et blessures ayant occasionné la mort. Tel était le chef d'accusation qui faisait comparaître en cour d'assises le sieur Léopold Renard, tapissier. Autour de lui, les principaux témoins, la dame Flamèche, veuve de la victime, les nommés Louis Ladureau, ouvrier ébéniste, et Jean Durdan, plombier. Près du criminel, sa femme, en noir. Petite, laide. L'air d'une guenon habillée en dame. Et voici comment Renard, Léopold, raconte le drame.
« Mon Dieu, c'est un malheur dont je fus tout le temps la première victime, et dont ma volonté n'est pour rien, les faits se commandent de même, monsieur le Président. Je suis un honnête homme, homme de travail, tapissier dans la même rue depuis 16 ans. Connu, aimé, respecté, considéré de tous, comme en ont attesté les voisins, même la concierge, qui n'est pas folâtre tous les jours. J'aime le travail, j'aime l'épargne, j'aime les honnêtes gens et les plaisirs honnêtes. Voilà ce qui m'a perdu, tant pis pour moi. Ma volonté n'y étant pas, je continue à me respecter. Donc tous les dimanches, mon épouse, que voilà, et moi, depuis 5 ans, nous allons passer la journée à Poissy. Ça nous fait prendre l'air. Sans compter que nous aimons la pêche et la ligne. Oh, mais là, nous l'aimons comme des petits oignons. C'est Mélie qui m'a donné cette passion-là, la rosse. Et qu'elle y est plus emportée que moi, la teigne, vu que tout le mal vient d'elle en cette affaire-là, comme vous l'allez voir par la suite. Moi, je suis fort et doux, pas méchant pour dessous. Mais elle, oh là là, ça n'a l'air de rien, c'est petit, c'est maigre. Eh ben, c'est plus malfaisant qu'une fouine. Je ne nie pas qu'elle ait des qualités, elle en a, et d'importantes pour un commerçant. Mais son caractère, parlez-en aux alentours, et même à la concierge qui m'a déchargée tout à l'heure, elle vous en dira des nouvelles. Tous les jours, elle me reprochait ma douceur. C'est moi qui ne me laisserai pas faire ci, c'est moi qui ne me laisserai pas faire ça. En l'écoutant, monsieur le Président, j'aurai eu au moins 3 duels au pugilat par mois. Madame Renard l'interrompit. Cause toujours, rira bien qui rira le dernier. Il se tourna vers elle avec candeur. « Eh bien, je peux te charger puisque t'es pas en cause, toi. » Puis, faisant de nouveau face au président, l'orge continue. « Donc, nous allions à Poissy tous les samedis soirs pour y pêcher dès l'aurore du lendemain. C'est une habitude pour nous qui est devenue une seconde nature, comme on dit. J'avais découvert, voilà 3 ans cet été, une place. Mais une place, oh là là, à l'ombre, 8 pieds d'eau au moins, peut-être 10, un trou, quoi, avec des retrous sous la berge, une vraie niche à poissons, un paradis pour le pêcheur. » Ce trou-là, monsieur le Président, je pouvais le considérer comme à moi, vu que j'en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le savait dans le pays, tout le monde sans opposition. On disait, ça, c'est la place à Renard, et personne n'y serait venu. Pas même monsieur Plumeau, qui est connu, soi-disant l'offensé, pour chiper les places des autres. Donc, sûr de mon endroit, j'y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé le samedi, je montais dans Dalila avec mon épouse. Dalila, c'est ma Norvégienne, un bateau que j'ai fait construire chez Fournaise, quelque chose de léger et de sûr. Je dis que nous montons dans Dalila et nous allons amorcer. Pour amorcer, il n'y a que moi. Et ils le savent bien, les camarons. Vous me demanderez quoi j'amorce? Je ne peux pas répondre. Ça ne touche point à l'accident. Je ne peux pas répondre. C'est mon secret. Ils sont plus de 200 qui me l'ont demandé. On m'en a offert des petits verres et des fritures et des matelotes pour me faire causer. Mais va voir s'ils viennent, les chevennes. Ah oui, on m'a tapé sur le ventre pour la connaître, ma recette. Il n'y a que ma femme qui la sait. Et elle ne la dira pas plus que moi. Pas vrai, Mélie? Le président l'interrompit. Arrivez au fait le plus tôt possible. Le prévenu reprit. J'y viens, j'y viens. Donc, le samedi 8 juillet, parti par le train de 5h25, nous allâmes dès avant-dîner amorcer comme tous les samedis. Le temps s'annonçait bien et je disais à Mélie, chouette, chouette pour demain. Et elle répondait, ça promet. Nous ne causons jamais plus que ça ensemble. Et puis nous revenons dîner. J'étais content, j'avais soif. C'est cause de tout, monsieur le président. Je dis à Mélie, tiens, Mélie, il fait beau. Si je buvais une bouteille de casque-à-mèche. C'est un petit vin blanc que nous avons baptisé comme ça parce que si on en boit trop, il vous empêche de dormir et il remplace le casque-à-mèche, vous comprenez. Elle me répond, tu peux faire à ton idée, mais tu seras encore malade et tu pourras pas te lever demain. Ça, c'était vrai. C'était sage. C'était prudent, c'était perspicace, je le confesse. Néanmoins, je ne suis pas à me contenir. Et je la bu, ma bouteille. Tout vint de là. Donc, je ne puis pas dormir. Christi, je l'ai eu jusqu'à 2 heures du matin, ce casque-à-mèche en jus de raisin. Et puis pouf, je m'endors. Mais là, je dors à ne pas entendre gueuler l'ange du jugement dernier. Bref, ma femme me réveille à 6 heures. Je saute du lit. Je passe vite et vite ma culotte et ma vareuse. Un coup d'eau sur le museau et nous sautons dans Dalila. Trop tard, quand j'arrive à mon trou, il était pris. Jamais ça n'était arrivé, monsieur le président. Jamais depuis 3 ans. Ça m'a fait un effet comme si on me dévalisait sous mes yeux. Je dis non d'un nom, d'un nom, d'un nom. Et voilà ma femme qui commence à me harceler. Hein, ton casque à mèche, va donc sous l'eau, es-tu content, grande bête? Je ne disais rien, c'était vrai tout ça. Je débarque tout de même près de l'endroit pour tâcher de profiter des restes. Et peut-être qu'il ne prendra rien, cet homme, et qu'il s'en irait. C'était un petit maigre, en coutil blanc, avec un grand chapeau de paille. Et il avait aussi sa femme, une grosse, qui faisait de la tapisserie derrière lui. Quand elle nous vit nous installer près du lieu, voilà qu'elle murmure « Il n'y a donc pas d'autre place sur la rivière ?» Et la mienne, qui rageait, de répondre « Les gens qui ont du savoir-vivre s'informent des habitudes d'un pays avant d'occuper les endroits réservés. » Comme je ne voulais pas d'histoire, je lui dis « Tais-toi, Mélie, laisse faire, nous verrons bien. » Donc, nous avions mis Dalila sous les saules, nous étions descendus et nous pêchions coude à coude, Mélie et moi, juste à côté des deux autres. Ici, monsieur le président, faut que j'entre dans le détail. Il n'y avait pas 5 minutes que nous étions là quand la ligne du voisin se met à plonger 2 fois, 3 fois. Puis voilà qu'il en amène un, de chevenne, gros comme ma cuisse. Un peu moins peut-être, mais presque. Moi, le cœur me bat, j'ai une sueur aux tempes et Mélie qui me dit « Hein, pochard, l'as-tu vu celui-là ?» Sur ces entrefaites, M. Bru, l'épicier de Poissy, un amateur de goujons, lui, passe en barque et me crie « On vous a pris votre endroit, monsieur Renard ?» Je lui réponds « Oui, monsieur Bru, il y a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages. » Le petit couti d'à côté avait l'air de ne pas entendre sa femme non plus, sa grosse femme, un veau, quoi. Le président interrompit une seconde fois. « Prenez garde, vous insultez madame veuve Flamèche ici présente. » Renard s'exclama. « Pardon, pardon, c'est la passion qui m'emporte. » Donc, il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit couti en prit encore un de chevenne, et un autre presque par-dessus, et encore un 5 minutes plus tard. Moi, j'en avais les larmes aux yeux, et puis je sentais madame Renard en ébullition, et elle me lancicotait sans cesse. « Ah, misère, crois-tu qu'il te le vole, ton poisson, crois-tu? Tu ne prendras rien, toi, pas une grenouille, rien de rien, rien. Tiens, j'ai du feu dans la main, rien que d'y penser. » Moi, je me disais, attendons midi, il ira déjeuner ce braconnier-là, et je la reprendrai, ma place. Vu que moi, monsieur le président, je déjeune sur les lieux tous les dimanches. Nous apportons les provisions dans Dalila. Ah, wesh. Midi sonne, il avait un poulet dans un journal, le malfaiteur, et pendant qu'il mange, v'là qu'il en prend encore un de chevenne. Mélie et moi, nous cassions une croûte aussi, comme ça, sur le pouce, presque rien. Le cœur n'y était pas. Alors, pour faire digestion, je prends mon journal. Tous les dimanches, comme ça, je lis le Gil Blas, à l'ombre, au bord de l'eau. C'est le jour de Colombine, vous savez bien, Colombine, qui écrit des articles dans le Gil Blas. J'avais coutume de faire enrager madame Renard en prétendant la connaître, cette Colombine. C'est pas vrai, je la connais pas, je l'ai jamais connue. N'importe, elle écrit bien. Et puis elle dit des choses rudement d'aplomb pour une femme. Moi, elle me va, il n'y en a pas beaucoup dans son genre. Voilà donc que je commence à sticoter mon épouse, mais elle se fâche tout de suite, et raide encore. Donc, je me tais. C'est à ce moment qu'arrivent de l'autre côté de la rivière nos deux témoins que voilà, monsieur Laduro et monsieur Durdan. Nous nous connaissions de vue. Le petit s'était remis à pêcher. Il en prenait que j'en tremblais, moi. Et sa femme se met à dire « La place est rudement bonne. Nous y reviendrons toujours, Désiré. » Moi, je me sens un froid dans le dos. Et madame Renard rabettait « T'es pas un homme. T'es pas un homme. T'as du sang de poulet dans les veines. » Je lui dis soudain « Tiens, j'aime mieux m'en aller. Je ferai quelques bêtises. » Et elle me souffle comme si elle m'eût mis un fer rouge sous le nez. « T'es pas un homme. V'là que tu fuis maintenant que tu rends la place. Va donc, Bazaine. » Là, je me suis senti touché. Cependant, je ne bronche pas. Mais l'autre, il lève une brème. Oh, jamais j'en ai vu telle. Jamais. Et revoilà ma femme qui se met à parler haut comme si elle pensait. Vous voyez d'ici la malice. Elle disait, c'est ça qu'on peut appeler du poisson volé, vu que nous avons amorcé la place nous-mêmes. Faudrait rendre au moins l'argent dépensé pour l'amorce. Alors la grosse au petit coutil se met à dire à son tour « C'est à nous que vous en avez, madame ?»« J'en ai aux voleurs de poissons qui profitent de l'argent dépensé par les autres. »« C'est nous que vous appelez des voleurs de poissons ?» Et voilà qu'elles s'expliquent, et puis qu'elles en viennent au mot. « Christ, si elles en savent, les gueuses, et de taper !» Elles gueulaient si fort que nos deux témoins, qui étaient sur l'autre berge, se mettent à crier pour rigoler. « Hé, là-bas, un peu de silence! Vous allez empêcher vos époux de pêcher !» Le fait est que le petit Coutil et moi, nous ne bougeons pas plus que deux souches. Nous restions là, le nez sur l'eau, comme si nous n'avions pas entendu. « Christi de Christi, nous entendions bien pourtant. Vous n'êtes qu'une menteuse, vous n'êtes qu'une traînée, vous n'êtes qu'une roulure, vous n'êtes qu'une rouchie. Eh va donc, eh va donc. Un matelot n'en sait pas plus. » Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne. C'était l'autre, la grosse, qui tombait sur ma femme à coups d'ombrelle. Pan, pan, Mélie hors soi d'eux. Mais elle rage, Mélie. Et puis elle tape quand elle rage. Elle vous attrape la grosse par les cheveux. Et puis vlan, 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 des gifles qui pleuvaient comme des prunes. Moi, je les aurais laissés faire. Les femmes entre elles, les hommes entre eux. Il ne faut pas mêler les coups. Et le petit Coutil se lève comme un diable. Et puis il veut sauter sur ma femme. Ah mais non. Ah mais non, pas de ça, camarade. Moi, je le reçois sur le bout de mon poing, cet oiseau-là. Aignon, aignon, un dans le nez, l'autre dans le ventre. Il lève le bras, il lève la jambe et il tombe sur le dos en pleine rivière, juste dans le trou. Je l'aurais repêché pour sûr, monsieur le président, si j'avais eu le temps tout de suite. Mais pour comble, la grosse prenait le dessus et elle vous tripotait Mélie de la belle façon. Je sais bien que j'aurais pas dû la secourir pendant que l'autre buvait son coup, mais je ne pensais pas qu'il se serait noyé. Je me disais, bah, ça le rafraîchira. Je cours donc aux femmes pour les séparer. Et j'en reçois des nions, des coups d'ongles et des coups de dents. Christi, quel rosse! Bref, il me fallut bien 5 minutes, peut-être 10, pour séparer ces deux crampons-là. Je me retourne, plus rien. L'eau canne comme un lac. Et les autres là-bas qui crièrent « Pêchez-leur! Pêchez-le !» C'est bon à dire ça, mais je sais pas nager, moi. Et plonger encore moins, pour sûr. Enfin, le barragiste est venu et deux messieurs avec des gaffes. Ça avait bien duré un grand quart d'heure. On la retrouva au fond du trou sous 8 pieds d'eau, comme j'avais dit. Mais il y était, le petit Coutil. Voilà les faits tels que je les jure. Je suis innocent, sur l'honneur. Les témoins ayant déposé dans le même sens, le prévenu fut acquitté. Fin du trou. Sauvé du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Brusa, le Horla, par Guy de Maupassant. Sauvé. Elle entra comme une balle qui crève une vitre, la petite marquise de Renaudon, et elle se mit à rire avant de parler, à rire aux larmes comme elle avait fait un mois plus tôt en annonçant à son amie qu'elle avait trompé le marquis pour se venger, rien que pour se venger, et rien qu'une fois, parce qu'il était vraiment trop bête et trop jaloux. La petite baronne de Grangerie avait jeté sur son canapé le livre qu'elle lisait et regardait Annette avec curiosité, riant déjà elle-même. Enfin, elle demanda « Qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Oh, ma chère, c'est trop drôle, trop drôle !»« Figure-toi, je suis sauvée, sauvée, sauvée !»«
Comment sauvée ?»«
Oui, sauvée !»«
De quoi ?»
De mon mari, ma chère, sauvée, délivrée, libre, libre.
Comment libre en quoi?
En quoi, le divorce? Oui, le divorce, je tiens le divorce.
Tu es divorcée?
Non, pas encore, que tu sautes, on ne divorce pas en 3 heures. Mais j'ai des preuves qu'il me trompe, un flagrant délit, songe, un flagrant délit, je le tiens.
Oh, dis-moi ça, alors il te trompait?
Oui, c'est-à-dire non.
Oui, non, je ne sais pas. Enfin, j'ai des preuves, c'est l'essentiel.
Comment as-tu fait?
Comment j'ai fait?
Voilà. Oh, j'ai été forte, rudement forte. Depuis 3 mois, il était devenu odieux, tout à fait odieux. Brutal, grossier, despote, ignoble, enfin. Je me suis dit, ça ne peut pas durer, il me faut le divorce. Mais comment? Ce n'était pas facile. J'ai essayé de me faire battre par lui, il n'a pas voulu. Il me contrariait du matin au soir, me forçait à sortir quand je ne voulais pas, à rester chez moi quand je désirais dîner en ville. Il me rendait la vie insupportable d'un bout à l'autre de la semaine, mais il ne me battait pas. Alors j'ai tâché de savoir s'il avait une maîtresse. Oui, il en avait une, mais il prenait 1000 précautions pour aller chez elle. Ils étaient imprenables ensemble. Alors, devine ce que j'ai fait?
Je ne devine pas.
Oh, tu ne devineras jamais. J'ai prié mon frère de me procurer une photographie de cette fille.
De la maîtresse de ton mari?
Oui. Ça a coûté 15 louis à Jacques, le prix d'un soir, de 7 heures à minuit, dîner compris, 3 louis l'heure. Il a obtenu la photographie par-dessus le marché. Il me semble qu'il aurait pu la voir à moi en usant d'une ruse quelconque et sans être obligé de prendre en même temps l'original. Oh, elle est jolie. Ça ne déplaisait pas à Jacques. Et puis, moi, j'avais besoin de détails sur elle, de détails physiques, sur sa taille, sur sa poitrine, sur son teint, sur mille choses, enfin. Je ne comprends pas. Tu vas voir. Quand j'ai connu tout ce que je voulais savoir, je me suis rendue chez un... comment dirais-je ? Chez un homme d'affaires ? Tu sais, de ces hommes qui font des affaires de toutes sortes, de toute nature. Des agents de publicité et de complicité, de ces hommes... enfin, tu comprends. Oui, à peu près. Et tu lui as dit ?
Je lui ai dit, en montrant la photographie de Clarisse, elle s'appelle Clarisse, « Monsieur, il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça. Je la veux jolie, élégante, fine, propre, je la paierai ce qu'il faudra. Si ça me coûte 10 000 francs, tant pis, je n'en aurai pas besoin plus de 3 mois. » Il avait l'air très étonné, cet homme. Il me demanda, « Madame la veut-elle irréprochable ? » Je rougis et je balbutiai, « Mais oui, comme probité. » Il reprit, « Et comme meurt. » Je n'osais pas répondre, je fis seulement un signe de tête qui voulait dire non. Puis tout à coup, je compris qu'il avait un horrible soupçon et je m'écriai, perdant l'esprit. « Oh, monsieur, c'est pour mon mari, qui me trompe en ville et je veux qu'il me trompe chez moi, vous comprenez, pour le surprendre. » Alors l'homme se mit à rire et je compris à son regard qu'il m'avait rendu son estime. Il me trouvait même très forte. J'aurais bien parié qu'à ce moment-là, il avait envie de me serrer la main. Il me dit « Dans 8 jours, madame, j'aurai votre affaire et nous changerons de sujet s'il le faut. Je réponds du succès, vous ne me paierez qu'après réussite. » Ainsi, cette photographie représente la maîtresse de monsieur votre mari ?
Oui, monsieur.
Une belle personne, une fausse maigre. Et quel parfum ?
Je ne comprenais pas, je répétais. Comment quel parfum ?
Il sourit.
Oui, madame, le parfum est essentiel pour séduire un homme, car cela lui donne des ressouvenirs inconscients qui le disposent à l'action.
Le parfum établit des confusions obscures dans son esprit, le trouble et l'énerve en lui rappelant ses plaisirs.
« Il faut tâcher de savoir aussi ce que monsieur votre mari a l'habitude de manger quand il dîne avec cette dame. Vous pourriez lui servir les mêmes plats le soir où vous le pincerez. »«
Oh, nous le tenons, madame, nous le tenons. »
Je m'en allais enchantée. J'étais tombée là vraiment sur un homme très intelligent. 3 jours plus tard, je vis arriver chez moi une grande fille brune, très belle, avec l'air modeste et hardi en même temps, un singulier air de rouée. Elle fut très convenable avec moi. Comme je ne savais trop qui c'était, je l'appelais mademoiselle. Alors elle me dit « Oh, madame peut m'appeler Rose tout court. » Nous commençâmes à causer. « Eh bien, Rose, vous savez pourquoi vous venez ici ?»«
Je m'en doute, madame. » »«
Fort bien, ma fille. Et cela ne vous ennuie pas trop ?»«
Oh, madame, c'est le 8e divorce que je fais, j'y suis habituée. » »«
Alors parfait. Vous faut-il longtemps pour réussir ?»«
Oh, madame, ça dépend tout à fait du tempérament de monsieur. Quand j'aurai vu monsieur 5 minutes en tête-à-tête, je pourrai répondre exactement à madame. » »«
Vous le verrez tout à l'heure, mon enfant, mais je vous préviens qu'il n'est pas beau. »
Cela ne me fait rien, madame, j'en ai séparé déjà de très laid, mais je demanderai à madame si elle s'est informée du parfum.
Oui, ma bonne Rose, la verveine.
Tant mieux, madame, j'aime beaucoup cette odeur-là. Madame peut-elle me dire aussi si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie ?
Non, mon enfant, de la batiste avec dentelle.
Oh, alors c'est une personne comme il faut. Le linge de soie commence à devenir commun.
C'est très vrai ce que vous dites là ?
Eh bien, madame, je vais prendre mon service.
Elle prit son service, en effet, immédiatement, comme si elle n'eût fait que cela toute sa vie. 1 heure plus tard, mon mari rentrait. Rose ne leva même pas les yeux sur lui, mais il leva les yeux sur elle, lui. Elle sentait déjà la verveine à plein nez. Au bout de 5 minutes, elle sortit. Il me demanda aussitôt. « Qu'est-ce que c'est que cette fille-là ? »
« Mais ma nouvelle femme de chambre ? »
« Où l'avez-vous trouvée ? »
« C'est la baronne de Grangerie qui me l'a donnée, avec les meilleurs renseignements. »«
Ah, elle est assez jolie. »
Vous trouvez ?
Mais oui, pour une femme de chambre.
J'étais ravie, je sentais qu'il mordait déjà. Le soir même, Rose me disait « Je puis maintenant promettre à madame que ça ne durera pas plus de 15 jours, monsieur est très facile. »
« Ah, vous avez déjà essayé ? » ?»«
Non, madame, mais ça se voit au premier coup d'œil, il a déjà envie de m'embrasser en passant à côté de moi. »
« Il ne vous a rien dit ?»«
Non, madame, il m'a seulement demandé mon nom pour entendre le son de ma voix. »
« Très bien, ma bonne Rose, allez le plus vite que vous pourrez. »
Que madame ne craigne rien, je ne résisterai que le temps nécessaire pour ne pas me déprécier. Au bout de 8 jours, mon mari ne sortait presque plus, je le voyais rôder toute l'après-midi dans la maison, et ce qu'il y avait de plus significatif dans son affaire, c'est qu'il ne m'empêchait plus de sortir. Et moi, j'étais dehors toute la journée, pour le laisser libre. Le 9e jour, comme Rose me déshabillait, elle me dit d'un air timide. « C'est fait, madame, de ce matin. »
Je fus un peu surprise, un rien ému même, non de la chose, mais plutôt de la manière dont elle me l'avait dite.
Je balbutiais. « Et ça s'est bien passé ? » ?»«
Oh, très bien, madame. Depuis 3 jours déjà, elle me pressait, mais je ne voulais pas aller trop vite. Madame me préviendra du moment où elle désire le flagrant délit. Oui, ma fille. Tenez, prenons jeudi. Va pour jeudi, madame. Je n'accorderai rien jusque-là pour tenir monsieur en éveil. Vous êtes sûre de ne pas manquer? Oh oui, madame, très sûre. Je vais allumer monsieur dans les grands prix, de façon à le faire donner juste à l'heure que madame voudra bien me désigner. Prenons 5 heures, ma bonne Rose. Ça va pour 5 heures, madame. Et à quel endroit? Mais dans ma chambre? Soit, dans la chambre de madame. Alors, ma chérie, tu comprends ce que j'ai fait. J'ai été chercher papa et maman d'abord, et puis mon oncle d'Orvelin, le président, et puis monsieur Rappelet, le juge, l'ami de mon mari. Je ne les ai pas prévenus de ce que j'allais leur montrer. Je les ai fait entrer tous sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de ma chambre. J'ai attendu 5 heures, 5 heures juste. Oh, comme mon cœur battait. J'avais fait monter aussi le concierge pour avoir un témoin de plus. Et puis, au moment où la pendule commence à sonner, pan, j'ouvre la porte toute grande. Ça y était, en plein, ma chère. Oh, quelle tête, si tu avais vu sa tête! Et il s'est retourné, l'imbécile. Oh, qu'il était drôle. Je riais. Et papa qui s'est fâché, qui voulait battre mon mari, et le concierge, un bon serviteur, qui l'aidait à se rhabiller devant nous. Il boutonnait ses bretelles, que c'était farce. Quant à Rose, parfaite, absolument parfaite. Elle pleurait très bien. C'est une fille précieuse, si tu en as jamais besoin, n'oublie pas. Et me voici. Je suis venue tout de suite te raconter la chose, tout de suite. Je suis libre. Vive le divorce. Et elle se mit à danser au milieu du salon, tandis que la petite baronne, songeuse et contrariée, murmurait. « Pourquoi ne m'as-tu pas invité à voir ça ?» Fin de Sauvé. Clochette, du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Prusa. Le Horla, par Guy de Maupassant. Clochette. Sont-ils étranges, ces anciens souvenirs qui vous hantent sans qu'on puisse se défaire d'eux? Celui-là est si vieux que je ne saurais comprendre comment il est resté si vif et si tenace dans mon esprit. J'ai vu depuis tant de choses sinistres, émouvantes ou terribles que je m'étonne de ne pouvoir passer un jour, un seul jour, sans que la figure de la mère Clochette ne se retrace devant mes yeux, telle que je la connus autrefois, voilà, si longtemps, quand j'avais 10 ou 12 ans. C'était une vieille couturière qui venait une fois par semaine, tous les mardis, raccommoder le linge chez mes parents. Mes parents habitaient une de ces demeures de campagne appelées châteaux, et qui sont simplement d'antiques maisons à toit aigu dont dépendent 4 ou 5 fermes groupées autour. Le village, un gros village, un bourg, apparaissait à quelques centaines de mètres serré autour de l'église, une église de briques rouges devenue noire avec le temps. Donc tous les mardis, la mère Clochette arrivait entre 6h30 et 7h du matin et montait aussitôt dans la lingerie se mettre au travail. C'était une haute femme maigre, barbue, ou plutôt poilue, car elle avait de la barbe sur toute la figure, une barbe surprenante, inattendue, poussée par bouquets invraisemblables, par touffes frisées qui semblaient semées par un fou à travers ce grand visage de gendarme en jupe. Elle en avait sur le nez, sous le nez, autour du nez, sur le menton, sur les joues, et ses sourcils d'une épaisseur et d'une longueur extravagantes, tout gris, touffu, hérissé, avaient tout à fait l'air d'une paire de moustaches placées là par erreur. Elle boitait, non pas comme boitent les estropiés ordinaires, mais comme un navire à l'ancre. Quand elle posait sur sa bonne jambe son grand corps osseux et dévié, elle semblait prendre son élan pour monter sur une vague monstrueuse, puis tout à coup, elle plongeait comme pour disparaître dans un abîme. Elle s'enfonçait dans le sol. Sa marche éveillait bien l'idée d'une tempête, tant elle se balançait en même temps. Et sa tête, toujours coiffée d'un énorme bonnet blanc dont les rubans lui flottaient dans le dos, semblait traverser l'horizon du nord au sud et du sud au nord à chacun de ses mouvements. J'adorais cette mère Clochette. Aussitôt levée, je montais dans la lingerie où je la trouvais installée à coudre, une chaufferette sous les pieds. Dès que j'arrivais, elle me forçait à prendre cette chaufferette et à m'asseoir dessus pour ne pas m'enrhumer dans cette vaste pièce froide placée sous le toit. « Ça te tire le sang de la gorge, » disait-elle. Elle me contait des histoires tout en reprisant le linge avec ses longs doigts crochus qui étaient vifs. Ses yeux, derrière ses lunettes au verre grossissant, car l'âge avait affaibli sa vue, me paraissaient énormes, étrangement profonds, doubles. Elle avait, autant que je puis me rappeler les choses qu'elle me disait et dont mon cœur d'enfant était remué, une âme magnanime de pauvre femme. Elle voyait gros et simple. Elle me contait les événements du bourg, l'histoire d'une vache qui s'était sauvée de l'étable et qu'on avait retrouvée un matin devant le moulin de Prosper Mallet, regardant tourner les ailes de bois.
ou l'histoire d'un œuf de poule découvert dans le clocher de l'église sans qu'on n'eût jamais compris quelle bête était venue le pondre là, ou l'histoire du chien de Jean-Jean Pilat, qui avait été reprendre à 10 lieues du village la culotte de son maître, volée par un passant, tandis qu'elle séchait devant la porte après une course à la pluie. Elle me contait ses naïves aventures de telle façon qu'elle prenait en mon esprit des proportions de drames inoubliables, de poèmes grandioses et mystérieux. Et les contes ingénieux inventés par des poètes et que me narrait ma mère le soir n'avaient point cette saveur, cette ampleur, cette puissance des récits de la paysanne. Or, un mardi, comme j'avais passé toute la matinée à écouter la mère Clochette, je voulus remonter près d'elle dans la journée, après avoir été cueillir des noisettes avec le domestique, au bois des Halais, derrière la ferme de Noirpré. Je me rappelle tout cela aussi nettement que les choses d'hier. Or, en ouvrant la porte de la lingerie, j'aperçus la vieille couturière étendue sur le sol à côté de sa chaise, la face par terre, les bras allongés, tenant encore son aiguille d'une main et de l'autre une de mes chemises. Une de ses jambes, dans un bas bleu, la grande, sans doute, s'allongeait sous sa chaise, et les lunettes brillaient au pied de la muraille ayant roulé loin d'elle. Je me sauvai en poussant des cris aigus. On accourut, et j'appris au bout de quelques minutes que la mère Clochette était morte. Je ne saurais dire l'émotion profonde, poignante, terrible, qui crispa mon cœur d'enfant. Je descendis à petits pas dans le salon et j'allai me cacher dans un coin sombre au fond d'une immense et antique bergère où je me mis à genoux pour pleurer. Je restai là longtemps sans doute, car la nuit vint. Tout à coup, on entra avec une lampe, mais on ne me vit pas, et j'entendis mon père et ma mère causer avec le médecin dont je reconnus la voix. On l'avait été chercher bien vite et il expliquait les causes de l'accident. Je n'y compris rien d'ailleurs. Puis il s'assit et accepta un verre de liqueur avec un biscuit. Il parlait toujours, et ce qu'il dit alors me reste et me restera gravé dans l'âme jusqu'à ma mort. Je crois que je puis reproduire même presque absolument les termes dont il se servit. « Ah, disait-il, la pauvre femme. Ce fut ici ma première cliente. Elle se cassa la jambe le jour de mon arrivée, et je n'avais pas eu le temps de me laver les mains en descendant de la diligence quand on vint me quérir en toute hâte, car c'était grave, très grave. Elle avait 17 ans, et c'était une très belle fille. Très belle, très belle. L'aurait-on cru ? Quant à son histoire, je ne l'ai jamais dite, et personne hors moi et un autre qui n'est plus dans le pays ne l'a jamais su. Maintenant qu'elle est morte, je puis être moins discret. À cette époque-là venait de s'installer dans le bourg un jeunet d'instituteurs qui avait une jolie figure et une belle taille de sous-officier. Toutes les filles lui couraient après, et il faisait le dédaigneux, ayant grand peur d'ailleurs du maître d'école, son supérieur, le père Grabu, qui n'était pas bien levé tous les jours. Le père Grabu employait déjà comme couturière la belle Hortense, qui vient de mourir chez vous, et qu'on baptisa plus tard Clochette, après son accident. L'aide instituteur distingua cette belle fillette qui fut sans doute flattée d'être choisie par cet imprenable conquérant. Toujours est-il qu'elle l'aima et qu'il obtint un premier rendez-vous dans le grenier de l'école à la fin d'un jour de couture, la nuit venue. Elle fit donc semblant de rentrer chez elle, mais au lieu de descendre l'escalier en sortant de chez les Grabu, elle le monta et alla se cacher dans le foin pour attendre son amoureux. Il l'y rejoignit bientôt et il commençait à lui conter Fleurette quand la porte de ce grenier s'ouvrit de nouveau et le maître d'école parut et demanda « Qu'est-ce que vous faites là-haut, Sigisbert ?» Sentant qu'il serait pris, le jeune instituteur affolé répondit stupidement. « J'étais monté me reposer un peu sur les bottes, monsieur Grabu. » Ce grenier était très grand, très vaste, absolument noir. Et Sigisbert poussait vers le fond la jeune fille effarée en répétant « Allez là-bas, cachez-vous. Je vais perdre ma place, sauvez-vous, cachez-vous. » Le maître d'école, entendant murmurer, reprit. « Vous n'êtes donc pas seul ici ?»« Mais oui, monsieur Grabu. » »« Mais non, puisque vous parlez. » « Je vous jure que oui, monsieur Grabu. »« C'est ce que je vais savoir, » reprit le vieux. Et fermant la porte à double tour, il descendit chercher une chandelle. Alors le jeune homme, un lâche comme on en trouve souvent, perdit la tête et il répétait, paraît-il, devenu furieux tout à coup. « Mais cachez-vous qu'il ne vous trouve pas. Vous allez me mettre sans pain pour toute ma vie, vous allez briser ma carrière. Cachez-vous donc !» On entendait la clé qui tournait de nouveau dans la serrure. Hortense courut à la lucarne qui donnait sur la rue, l'ouvrit brusquement, puis d'une voix basse et résolue, « Vous viendrez me ramasser quand il sera parti, » dit-elle. Et elle sauta. Le père Grabu ne trouva personne et redescendit, fort surpris. Un quart d'heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi et me contait son aventure. La jeune fille était restée au pied du mur, incapable de se lever, étant tombée de 2 étages. J'allais la chercher avec lui. Il pleuvait à verse et j'apportais chez moi cette malheureuse dont la jambe droite était brisée à 3 places et dont les os avaient crevé les chairs. Elle ne se plaignait pas, elle disait seulement avec une admirable résignation « Je suis punie, bien punie. » Je fis venir du secours et les parents de l'ouvrière à qui je contais la fable d'une voiture emportée qui l'avait renversée et estropiée devant ma porte. On me crut, et la gendarmerie chercha en vain pendant un mois l'auteur de cet accident.
Voilà. Et je dis que cette femme fut une héroïne, de la race de celles qui accomplissent les plus belles actions historiques. Ce fut là son seul amour, elle est morte vierge. C'est une martyre, une grande âme, une dévouée sublime. Et si je ne l'admirais pas absolument, je ne vous aurais pas conté cette histoire que je n'ai jamais voulu dire à personne pendant sa vie, vous comprenez pourquoi. Le médecin s'était tu. Maman pleurait. Papa prononça quelques mots que je ne saisis pas bien, puis ils s'en allèrent. Et je restai à genoux sur ma bergère, sanglotant, pendant que j'entendais un bruit étrange de pas lourds et de heurts dans l'escalier. On emportait le corps de Clochette. Fin de Clochette. Le marquis de Fumerolles du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, le Horla, par Guy de Maupassant. Le marquis de Fumerolles. Roger de Tourneville, au milieu du cercle de ses amis, parlait à cheval sur une chaise. Il tenait un cigare à la main et de temps en temps aspirait et soufflait un petit nuage de fumée. Nous étions à table quand on m'apporta une lettre. Papa l'ouvrit. Vous connaissez bien papa qui croit faire l'intérim du roi en France. Moi, je l'appelle Don Quichotte parce qu'il s'est battu pendant 12 ans contre le moulin à vent de la République, sans bien savoir si c'était au nom des Bourbons ou bien au nom des Orléans. Aujourd'hui, il tient la lance au nom des Orléans seul, parce qu'il n'y a plus qu'eux. Dans tous les cas, papa se croit le premier gentilhomme de France, le plus connu, le plus influent, le chef du parti, et comme il est sénateur inamovible, il considère les rois des environs comme ayant des trônes peu sûrs. Quant à maman, c'est l'âme de papa. C'est l'âme de la royauté et de la religion, le bras droit de Dieu sur terre et le fléau des malpensants. Donc, on apporta une lettre pendant que nous étions à table. Papa l'ouvrit, la lut, puis il regarda maman et lui dit « Ton frère est à l'article de la mort. » Maman pâlit. Presque jamais on ne parlait de mon oncle dans la maison. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je savais seulement par la voix publique qu'il avait mené et menait encore une vie de polichinelle. Ayant mangé sa fortune avec un nombre incalculable de femmes, il n'avait conservé que 2 maîtresses, avec lesquelles il vivait dans un petit appartement rue des Martyrs. Ancien pair de France, ancien colonel de cavalerie, il ne croyait, disait-on, ni à Dieu ni à diable. Doutant donc de la vie future, il avait abusé de toutes les façons de la vie présente, et il était devenu la plaie vive du cœur de maman. Elle dit « Donnez-moi cette lettre, Paul. » Quand elle eut fini de la lire, je la demandai à mon tour. La voici. « Monsieur le comte, je crois devoir vous faire à savoir que votre beau-frère, le marquis de Fumerolles, va mourir. Peut-être voudrez-vous prendre des dispositions et ne pas oublier que je vous ai prévenu. Votre servante, Mélanie. » Papa murmura. « Il faut aviser. Dans ma situation, je dois veiller sur les derniers moments de votre frère. » Maman reprit. « Je vais faire chercher l'abbé Poivron et lui demander conseil. Puis j'irai trouver mon frère avec l'abbé et Roger. Vous, Paul, restez ici. Il ne faut pas vous compromettre. Une femme peut faire et doit faire ces choses-là, mais pour un homme politique dans votre position, c'est autre chose. Un adversaire aurait beau jeu à se servir contre vous de la plus louable de vos actions. » « Vous avez raison, dit mon père. Faites suivant votre inspiration, ma chère amie. » Un quart d'heure plus tard, l'abbé Poivron entrait dans le salon et la situation fut exposée, analysée, discutée sous toutes ses faces. Si le marquis de Fumerolles, un des grands noms de France, mourait sans les secours de la religion, le coup assurément serait terrible pour la noblesse en général et pour le comte de Tourneville en particulier. Les libres penseurs triompheraient. Les mauvais journaux chanteraient victoire pendant 6 mois. Le nom de ma mère serait traîné dans la boue et dans la prose des feuilles socialistes. Celui de mon père éclaboussé. Il était impossible qu'une pareille chose arrivât. Donc une croisade fut immédiatement décidée qui serait conduite par l'abbé Poivron, petit prêtre gras et propre, vaguement parfumé, un vrai vicaire de grande église dans un quartier noble et riche. Un landau fut attelé et nous voici partis tous trois, maman, le curé et moi, pour administrer mon oncle. Il avait été décidé qu'on verrait d'abord Madame Mélanie, auteur de la lettre et qui devait être la concierge ou la servante de mon oncle. Je descendis en éclaireur devant une maison à 7 étages et j'entrai dans un couloir sombre où j'eus beaucoup de mal à découvrir le trou obscur du portier. Cet homme me toisa avec méfiance. Je demandai « Madame Mélanie, s'il vous plaît ?»« Connais pas. » « Mais j'ai reçu une lettre d'elle. »« C'est possible, mais connais pas. C'est quelque entretenue que vous demandez ?»« Non, une bonne, probablement. Elle m'a écrit pour une place. »«
Une bonne ? Une bonne ?
Peut-être la celle au marquis ? Allez voir, 5e à gauche. » Du moment que je ne demandais pas une entretenue, il était devenu plus aimable et il vint jusqu'au couloir. C'était un grand maigre avec des favoris blancs, un air bedeau et des gestes majestueux. Je grimpai en courant un long limaçon poisseux d'escalier dont je n'osais toucher la rampe et je frappai 3 coups discrets à la porte de gauche du 5e étage. Elle s'ouvrit aussitôt et une femme malpropre, énorme, se trouva devant moi barrant l'entrée de ses bras ouverts qui s'appuyaient aux 2 portants. Elle grogna. « Qu'est-ce que vous demandez ? Vous êtes Madame Mélanie ?
Oui.
Je suis le vicomte de Tourneville.
Ah bon, entrez.
C'est que maman est en bas avec un prêtre.
Ah bon ? Allez le chercher. Mais prenez garde au portier. »
Je descendis et je remontai avec maman que suivait l'abbé. Il me sembla que j'entendais d'autres pas derrière nous. Dès que nous fûmes dans la cuisine, Mélanie nous offrit des chaises et nous nous assîmes tous les 4 pour délibérer.
« Il est bien bas ?»
demanda maman.
« Ah oui, madame, il n'en a pas pour longtemps. »
« Est-ce qu'il semble disposé à recevoir la visite d'un prêtre ?»«
Oh, je ne crois pas.
Puis-je le voir ?»«
Mais oui, madame, seulement... seulement ces demoiselles sont auprès de lui. »«
Quelles demoiselles ?»«
Mais ses bonnes amies, donc. »«
Ah !»
Maman était devenue toute rouge. L'abbé Poivron avait baissé les yeux. Cela commençait à m'amuser, et je dis « Si j'entrais le premier, je verrai comment il me recevra et je pourrai peut-être préparer son cœur. »
Maman, qui n'y entendait pas malice, répondit « Oui, mon enfant. »
Mais une porte s'ouvrit quelque part et une voix de femme, cria « Mélanie !»
La grosse bonne s'élança, répondit
« Qu'est-ce qu'il faut, mademoiselle Claire ?»«
L'omelette, bien vite. »«
Dans 1 minute, mademoiselle. »
Et revenant vers nous, elle expliqua cet appel.
« C'est une omelette au fromage qu'elles m'ont commandée pour 2 heures comme collation. »
Et tout de suite, elle cassa les œufs dans un saladier et se mit à les battre avec ardeur. Moi, je sortis sur l'escalier et je tirai la sonnette afin d'annoncer mon arrivée officielle. Mélanie m'ouvrit, me fit asseoir dans une antichambre, alla dire à mon oncle que j'étais là, puis revint me prier d'entrer. L'abbé se cacha derrière la porte pour paraître au premier signe. Assurément, je fus surpris en voyant mon oncle. Il était très beau, très solennel, très chic, ce vieux viveur. Assis, presque couché dans un grand fauteuil, les jambes enveloppées d'une couverture, les mains, de longues mains pâles, pendantes sur les bras du siège, il attendait la mort avec une dignité biblique. Sa barbe blanche tombait sur sa poitrine et ses cheveux, tout blancs aussi, la rejoignaient sur les joues. Debout derrière son fauteuil, comme pour le défendre contre moi, 2 jeunes femmes, 2 grasses petites femmes, me regardaient avec des yeux hardis de filles. En jupe et en peignoir, bras nus, avec des cheveux noirs à la diable sur la nuque, chaussées de savates orientales à broderie d'or qui montraient les chevilles et les bas de soie, elles avaient l'air auprès de ce moribond de figures immorales d'une peinture symbolique. Entre le fauteuil et le lit, une petite table portant une nappe, 2 assiettes, 2 verres, 2 fourchettes et 2 couteaux attendait l'omelette au fromage commandée tout à l'heure à Mélanie. Mon oncle dit d'une voix faible, essoufflée, mais nette. « Bonjour, mon enfant. Il est tard pour venir me voir, notre connaissance ne sera pas longue. » Je balbutiai. « Mon oncle, ce n'est pas ma faute. » Il répondit « Non, je le sais. C'est la faute de ton père et de ta mère plus que la tienne. Comment vont-ils ? » ?»«
Pas mal, je vous remercie. Quand ils ont appris que vous étiez malade, ils m'ont envoyé prendre de vos nouvelles. »«
Ah ? Pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes ?»
Je levai les yeux sur les 2 filles et je dis doucement « Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pu venir, mon oncle, mais il serait difficile pour mon père et impossible pour ma mère d'entrer ici. »
Le vieillard ne répondit rien, mais souleva sa main vers la mienne. Je pris cette main pâle et froide et je la gardai. La porte s'ouvrit. Mélanie entra avec l'omelette et la posa sur la table. Les 2 femmes aussitôt s'assirent devant leurs assiettes et se mirent à manger sans détourner les yeux de moi. Je dis « Mon oncle, ce serait une grande joie pour ma mère de vous embrasser. » Il murmura « Moi aussi, je voudrais. » Il se tut. Je ne trouvais rien à lui proposer, et on n'entendait plus que le bruit des fourchettes sur la porcelaine et ce vague mouvement des bouches qui mâchent. Or l'abbé, qui écoutait derrière la porte, voyant notre embarras et croyant la partie gagnée, jugea le moment venu d'intervenir et il se montra. Mon oncle fut tellement stupéfait de cette apparition qu'il demeura d'abord immobile. Puis il ouvrit la bouche comme s'il voulait avaler le prêtre. Puis il cria d'une voix forte, profonde, furieuse. « Que venez-vous faire ici ?» L'abbé, accoutumé aux situations difficiles, avançait toujours, murmurant. « Je viens au nom de votre sœur, monsieur le marquis, c'est elle qui m'envoie. »« Elle serait si heureuse, monsieur le marquis. » Mais le marquis n'écoutait pas. Levant une main, il indiquait la porte d'un geste tragique et superbe, et il disait exaspéré, haletant, « Sortez d'ici ! Sortez d'ici, voleur d'âme ! Sortez d'ici, violeur de conscience ! Sortez d'ici, crocheteur de porte des moribonds !»
Et l'abbé reculait, et moi aussi. Je reculais vers la porte, battant en retraite avec mon clergé. Et vengées, les deux petites femmes s'étaient levées, laissant leur omelette à demi mangée, et elles s'étaient placées des deux côtés du fauteuil de mon oncle, posant leurs mains sur ses bras pour le calmer, pour le protéger contre les entreprises criminelles de la famille et de la religion. L'abbé et moi, nous rejoignîmes maman dans la cuisine, et Mélanie, de nouveau, nous offrit des chaises. « Je savais bien que ça n'irait pas tout seul, » disait-elle. « Il faut trouver autre chose, autrement il nous échappera. » Et on recommença à délibérer. Maman avait un avis. L'abbé en soutenait un autre, j'en apportais un troisième. Nous discutions à voix basse depuis une demi-heure peut-être, quand un grand bruit de meubles remués et de cris poussés par mon oncle, plus véhément et plus terrible encore que les premiers, nous firent nous dresser tous les quatre. Nous entendions à travers les portes et les cloisons. « Dehors ! Dehors ! Manant ! Cuistre ! Dehors, gredin ! Dehors ! Dehors !» Mélanie se précipita puis revint aussitôt m'appeler à l'aide. J'accourus. En face de mon oncle, soulevé par la colère, presque debout et vociférant, deux hommes, l'un derrière l'autre, semblaient attendre qu'il fût mort de fureur. À sa longue redingote ridicule, à ses longs souliers anglais, à son air d'instituteur sans place, à son col droit et à sa cravate blanche, à ses cheveux plats, à sa figure humble de faux prêtre d'une religion bâtarde, je reconnus aussitôt le premier pour un pasteur protestant. Le second était le concierge de la maison qui, appartenant au culte réformé, nous avait suivis, avait vu notre défaite et avait couru chercher son prêtre à lui dans l'espoir d'un meilleur sort. Mon oncle semblait fou de rage. Si la vue du prêtre catholique, du prêtre de ses ancêtres, avait irrité le marquis de Fumerolles devenu libre penseur, l'aspect du ministre de son portier le mettait tout à fait hors de lui. Je saisis par les bras les deux hommes et je les jetai dehors si brusquement qu'ils s'embrassèrent avec violence deux fois de suite au passage des deux portes qui conduisaient à l'escalier. Puis je disparus à mon tour et je rentrai dans la cuisine, notre quartier général, afin de prendre conseil de ma mère et de l'abbé. Mais Mélanie, effarée, rentra en gémissant. « il meurt, venez vite, il meurt !» Ma mère s'élança. Mon oncle était tombé par terre, tout au long sur le parquet, et il ne remuait plus. Je crois bien qu'il était mort. Maman fut superbe à cet instant-là. Elle marcha droit sur les deux filles agenouillées auprès du corps et qui cherchaient à le soulever. Et leur montrant la porte avec une autorité, une dignité, une majesté irrésistible, elle prononça « C'est à vous de sortir, maintenant !» Et elles sortirent, sans protester, sans dire un mot. Il faut ajouter que je me disposais à les expulser avec la même vivacité que le pasteur et le concierge. Alors l'abbé Poivron administra mon oncle avec toutes les prières d'usage et lui remit ses péchés. Maman sanglotait, prosternée près de son frère. Tout à coup, elle s'écria. « Il m'a reconnu. Il m'a serré la main. Je suis sûre qu'il m'a reconnu et qu'il m'a remercié. Oh, mon Dieu, quelle joie !» Pauvre maman, si elle avait compris ou deviné à qui et à quoi ce remerciement-là devait s'adresser. On coucha l'oncle sur son lit. Il était bien mort cette fois. « Madame, dit Mélanie, nous n'avons pas de drap pour l'ensevelir. Tout le linge appartient à ces demoiselles. » Moi, je regardais l'omelette qu'elle n'avait point fini de manger, et j'avais en même temps envie de pleurer et de rire. Il y a de drôles d'instants et de drôles de sensations parfois dans la vie. Or, nous avons fait à mon oncle des funérailles magnifiques, avec 5 discours sur la tombe. Le sénateur baron de Croisselles a prouvé en termes admirables que Dieu toujours rentre victorieux dans les âmes de race un instant égarées. Tous les membres du parti royaliste et catholique suivaient le convoi, avec un enthousiasme de triomphateur, en parlant de cette belle mort après cette vie un peu troublée. Le vicomte Roger s'était tu. On riait autour de lui. Quelqu'un dit « Bah, c'est là l'histoire de toutes les conversions in extremis. » Fin du Marquis de Fumerolles. Le signe du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Prusa, le Horla, par Guy de Maupassant. Le signe. La petite marquise de Rennedon dormait encore dans sa chambre close et parfumée, dans son grand lit doux et bas, dans ses draps de batiste légère, fine comme une dentelle, caressant comme un baiser. Elle dormait seule, tranquille, de l'heureux et profond sommeil des divorcés. Des voix la réveillèrent, qui parlaient vivement dans le petit salon bleu. Elle reconnut son amie chère, la petite baronne de Grangerie, se disputant pour rentrer avec la femme de chambre qui défendait la porte de sa maîtresse. Alors la petite marquise se leva, tira les verrous, tourna la serrure, souleva la portière et montra sa tête, rien que sa tête blonde, cachée sous un nuage de cheveux. « Qu'est-ce que tu as ? Dit-elle, à venir si tôt. Il n'est pas encore 9 heures. La petite baronne, très pâle, fiévreuse, répondit. Il faut que je te parle, il m'arrive une chose horrible. Entre, ma chérie. Elle entra, elles s'embrassèrent, et la petite marquise se recoucha pendant que la femme de chambre ouvrait les fenêtres, donnait de l'air et du jour. Puis, quand la domestique fut partie, Madame de Renaudon reprit. « Allons, raconte !» Madame de Grangerie se mit à pleurer, versant ses jolies larmes claires qui rendent plus charmantes les femmes, et elle balbutiait sans s'essuyer les yeux pour ne point les rougir. « Oh, ma chère, c'est abominable, abominable ce qui m'arrive. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais pas une minute, tu entends ? Pas une minute ! Tiens, tâte mon cœur comme il bat !» Et prenant la main de son amie, elle la posa sur sa poitrine, sur cette ronde et ferme enveloppe du cœur des femmes, qui suffit souvent aux hommes et les empêche de rien chercher dessous. Son cœur battait fort, en effet. Elle continua. « Ça m'est arrivé hier, dans la journée, vers 4 heures, ou 4 heures et demie, je ne sais pas au juste. Tu connais bien mon appartement, tu sais que mon petit salon, celui où je me tiens toujours, donne sur la rue Saint-Lazare au premier, et que j'ai la manie de me mettre à la fenêtre pour regarder passer les gens. C'est si gai, ce quartier de la gare, si remuant, si vivant. Enfin, j'aime ça. Donc hier, j'étais assise sur la chaise basse que je me suis fait installer dans l'embrasure de ma fenêtre. Elle était ouverte, cette fenêtre, et je ne pensais à rien, je respirais l'air bleu. Tu te rappelles comme il faisait beau hier ? Tout à coup, je remarque que de l'autre côté de la rue, il y a aussi une femme à la fenêtre, une femme en rouge. Moi, j'étais en mauve, tu sais, ma jolie toilette mauve. Je ne la connaissais pas, cette femme, une nouvelle locataire installée depuis un mois. Et comme il pleut depuis un mois, je ne l'avais point vue encore. Mais je m'aperçus tout de suite que c'était une vilaine fille. D'abord, je fus très dégoûtée et très choquée qu'elle fût à la fenêtre comme moi. Et puis, peu à peu, ça m'amusa de l'examiner. Elle était accoudée et elle guettait les hommes, et les hommes aussi la regardaient, tous ou presque tous. On aurait dit qu'ils étaient prévenus par quelque chose en approchant de la maison, qu'ils la flairaient comme des chiens flairent le gibier, car ils levaient soudain la tête et échangeaient bien vite un regard avec elle, un regard de franc-maçon. Le sien disait « Voulez-vous ?» Et le leur répondait « Pas le temps », ou bien « Une autre fois », ou bien « Pas le sou », ou bien « Veux-tu te cacher, misérable ?» C'étaient les yeux des pères de famille qui disaient cette dernière phrase. Tu ne te figures pas comme c'était drôle de la voir faire son manège, ou plutôt son métier. Quelquefois, elle fermait brusquement la fenêtre et je voyais un monsieur tourner sous la porte. Elle l'avait pris, celui-là, comme un pêcheur à la ligne prend un goujon. Alors je commençais à regarder ma montre. Il restait 12 à 20 minutes, jamais plus. Vraiment, elle me passionnait à la fin, cette araignée. Et puis, elle n'était pas laide, cette fille. Je me demandais, comment fait-elle pour se faire comprendre si bien, si vite, complètement ? Ajoute-t-elle à son regard un signe de tête ou un mouvement de main ? Et je pris ma lunette de théâtre pour me rendre compte de son procédé. Oh, il était bien simple. Un coup d'œil d'abord, puis un sourire, puis un tout petit geste de tête qui voulait dire « montez-vous ». Mais si léger, si vague, si discret qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle. Et je me demandais « est-ce que je pourrais le faire aussi bien, ce petit coup de bas en haut, hardi et gentil ?» Car il était très gentil, son geste. Et j'allais l'essayer devant la glace. Ma chère, je le faisais mieux qu'elle, beaucoup mieux. J'étais enchantée. Et je revins me mettre à la fenêtre. Elle ne prenait plus personne à présent, la pauvre fille. Plus personne. Vraiment, elle n'avait pas de chance. Comme ça doit être terrible tout de même de gagner son pain de cette façon-là. Terrible et amusant quelquefois, car enfin, il y en a qui ne sont pas mal de ces hommes qu'on rencontre dans la rue. Maintenant, ils passaient tous sur mon trottoir et plus un seul sur le sien. Le soleil avait tourné. Ils arrivaient les uns derrière les autres, des jeunes, des vieux, des noirs, des blonds, des gris, des blancs. J'en voyais de très gentils, mais très gentils, ma chère, bien mieux que mon mari, et que le tien, ton ancien mari, puisque tu es divorcée. Maintenant, tu peux choisir. Je me disais, si je leur faisais le signe, est-ce qu'ils me comprendraient, moi, moi qui suis une honnête femme ? Et voilà que je suis prise d'une envie folle de le leur faire, ce signe. Mais d'une envie de femme grosse, d'une envie épouvantable, tu sais, de ces envies auxquelles on ne peut pas résister. J'en ai quelquefois comme ça, moi. Est-ce bête, dit ces choses-là ? Je crois que nous avons des âmes de singes, nous autres femmes. On m'a affirmé, du reste, c'est un médecin qui m'a dit ça, que le cerveau du singe ressemblait beaucoup au nôtre. Il faut toujours que nous imitions quelqu'un. Nous imitons nos maris quand nous les aimons dans le premier mois des noces, et puis nos amants ensuite, nos amis, nos confesseurs, quand ils sont bien. Nous prenons leur manière de penser, leur manière de dire, leurs mots, leurs gestes, tout. C'est stupide. Enfin, moi, quand je suis trop tentée de faire une chose, je la fais toujours. Je me dis donc, voyons, je vais essayer sur un seul, pour voir. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien. Nous échangerons un sourire, et voilà tout, et je ne le reverrai jamais. Et si je le vois, il ne me reconnaîtra pas. Et s'il me reconnaît, je nierai, parbleu. Je commence donc à choisir. J'en voulais un qui fût bien, très bien.
Tout à coup, je vois venir un grand blond, très joli garçon. J'aime les blonds, tu sais. Je le regarde, il me regarde, je souris, il sourit, je fais le geste. Oh, à peine. Il répond oui de la tête, et le voilà qui entre, ma chérie. Il entre par la grande porte de la maison. Tu ne te figures pas ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. J'ai cru que j'allais devenir folle. Oh, quelle peur, songe, il allait parler au domestique, à Joseph, qui est tout dévoué à mon mari. Joseph aurait cru certainement que je connaissais ce monsieur depuis longtemps. Que faire, dit, que faire? Et il allait sonner tout à l'heure, dans une seconde. Que faire, dit? J'ai pensé que le mieux était de courir à sa rencontre, de lui dire qu'il se trompait, de le supplier de s'en aller. Il aurait pitié d'une femme, d'une pauvre femme. Je me précipite donc à la porte et je l'ouvre juste au moment où il posait sa main sur le timbre. Je balbutiais tout à fait folle. « Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en, vous vous trompez. Je suis une honnête femme, une femme mariée, c'est une erreur, une affreuse erreur. Je vous ai pris pour un de mes amis à qui vous ressemblez beaucoup. Ayez pitié de moi, monsieur. » Et voilà qu'il se met à rire, ma chère, et il répond. « Bonjour, ma chatte. Tu sais, je la connais, ton histoire. Tu es mariée, c'est de louis au lieu d'un. Tu les auras. Allons, montre-moi la route. » Et il pousse. Il referme la porte, et comme je demeurais épouvantée en face de lui, il m'embrasse, me prend par la taille et me fait rentrer dans le salon qui était resté ouvert. Et puis il se met à regarder tout comme un commissaire-priseur. Et il reprend « Bigre, c'est gentil chez toi, c'est très chic, faut que tu sois rudement dans la dèche en ce moment-ci pour faire la fenêtre. » Alors moi, je recommence à le supplier. « Oh, monsieur, allez-vous-en, mon mari va rentrer. Il va rentrer dans un instant, c'est son heure, je vous jure que vous vous trompez. » Et il me répond tranquillement « Allons, ma belle, assez de manières comme ça. Si ton mari rentre, je lui donnerai 100 sous pour aller prendre quelque chose en face. » Comme il aperçoit sur la cheminée la photographie de Raoul, il me demande « C'est ça ton mari ?»« Oui, c'est lui. Il a l'air d'un joli mufle. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une de tes amies ?»« C'était ta photographie, ma chère. Tu sais, celle en toilette de bal. » Je ne savais plus ce que je disais et je balbutiais. « Oui, c'est une de mes amies. Elle est très gentille, tu me la feras connaître. » Et voilà la pendule qui se met à sonner 5 heures, et Raoul rentre tous les jours à 5h30. S'il revenait avant que l'autre fût parti, songe donc. Alors j'ai perdu la tête, tout à fait. J'ai pensé que le mieux était de me débarrasser de cet homme le plus vite possible. Plus tôt ce serait fini. Tu comprends, et voilà, voilà, puisqu'il le fallait, et il le fallait, ma chère. Il ne serait pas parti sans ça. Donc j'ai mis le verrou à la porte du salon, voilà. » La petite marquise de Renaudon s'était mise à rire, mais à rire follement, la tête dans l'oreiller, secouant son lit tout entier. Quand elle se fut un peu calmée, elle demanda « Et il était joli garçon ?»« Mais oui. » »« Et tu te plains ?» Mais vois-tu, ma chère, c'est que il a dit qu'il reviendrait demain à la même heure et j'ai une peur atroce, tu n'as pas idée comme il est tenace. Et volontaire, que faire? Dis, que faire? » La petite marquise s'assit dans son lit pour réfléchir, puis elle déclara brusquement. « Fais-le arrêter. » La petite baronne fut stupéfaite. Elle balbutia. « Comment? Tu dis? À quoi penses-tu? Le faire arrêter sous quel prétexte? » « Oh, c'est bien simple. Tu vas aller chez le commissaire, tu lui diras qu'un monsieur te suit depuis 3 mois, qu'il a eu l'insolence de monter chez toi hier, qu'il t'a menacé d'une nouvelle visite pour demain et que tu demandes protection à la loi. On te donnera 2 agents qui l'arrêteront. » « Mais ma chérie, s'il raconte... » « Mais on ne le croira pas, sotte, du moment que tu auras bien arrangé ton histoire au commissaire, et on te croira, toi, qui es une femme du monde irréprochable. » « Oh, je n'oserai jamais. » « Il faut oser, ma chère, ou bien tu es perdue. » « Songe qu'il va m'insulter quand on l'arrêtera. »« Eh bien, tu auras des témoins et tu le feras condamner. »« Condamner à quoi ?»« À des dommages. Dans ce cas, il faut être impitoyable. »« Ah, à propos de dommages, il y a une chose qui me gêne beaucoup, mais beaucoup. Il m'a laissé 2 louis sur la cheminée. »« 2 louis ?»« Oui. »« Pas plus ?»« Non. »« C'est peu. Ça m'aura humilié, moi. »« Eh bien ?»
« Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent ?»
La petite marquise hésita quelques secondes, puis répondit d'une voix sérieuse. « Ma chère, il faut faire un petit cadeau à ton mari. Ça n'est que justice. » Fin du signe.
This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials, where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Fall into big savings all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each, then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.